23 août. Le séjour de la Triomphante dans le bassin, l'éloignement où nous sommes de la ville, me servent de prétexte depuis 2 ou 3 jours pour ne plus aller à Dungeon-ji, voire Chrysanthème. On s'ennuie pourtant beaucoup dans ce bassin. Dès l'aube, une légion de petits ouvriers japonais nous envahissent, apportant leur dîner dans des paniers, des gourdes, comme les ouvriers de nos arsenaux français, mais ayant quelque chose de besogneux et de minable, de fureteur et d'empressé, qui fait songer à des rats. Ils se faufilent d'abord sans bruit, s'insinuent, et bientôt on en trouve partout, sous la quille, à fond de cale, dans les trous, qui scie, rabote, répare. Il fait une chaleur intense dans ce lieu surplombé par des rochers et des fouillis de verdure. Au grand soleil de 2 heures, c'est une invasion plus étrange et plus jolie qui nous arrive, celle des scarabées et des papillons. Des papillons extravagants comme sur les éventails. Il y en a de tout noirs qui se jettent contre nous par étourderie, si légers qu'on dirait de grandes ailes tremblotantes attachées ensemble sans corps. Yves les regarde, étonné. « Oh !» dit-il en prenant son air enfant. « J'en ai vu un si grand tout à l'heure, un si grand, oh, qui m'a épouvanté. J'ai cru que c'était une chauve-souris qui avait affaire à moi. » Un timonier qui en a attrapé un très singulier l'emporte précieusement pour le mettre à sécher dans son livre de signaux, comme on fait pour les fleurs. Un autre matelot qui passe, portant son maigre rôti au four dans une gamelle, le regarde d'un œil drôle. « Tu ferais pas mal de me le donner, tiens, je le ferai cuire. » août. 5 jours bientôt que j'ai abandonné ma maison nette et chrysanthème. Depuis hier, grand vent et pluie torrentielle. Oh, un typhon qui va passer ou qui passe. Nous avons fait branle-bas au milieu de la nuit pour caler les mâts de une, amener les bases vergues, prendre toutes les dispositions de gros temps. Les papillons ne viennent plus, mais tout s'agite et se tord au-dessus de nos têtes. Sur les parois des montagnes surplombantes, les arbres se froissent, les herbes se couchent, ont un air de souffrir. Des rafales terribles les tourmentent avec des bruits sifflants. Ils nous tombent en pluie des branches des feuilles de bambou de la terre. Et en ce pays de gentilles petites choses, cette tempête détonne. Il semble que son effort soit exagéré et sa musique trop grande. Vers le soir, les grosses nuées sombres roulent si vite que les averses sont courtes, tout de suite égouttées, tout de suite finies. Alors, je tente d'aller me promener dans la montagne au-dessus de nous, parmi les verdures mouillées. Il y a des petits sentiers qui y mènent entre les buissons de camélias et de bambous. Pour laisser passer une ondée, je me réfugie dans la cour d'un très vieux temple, qui est à mi-côte, abandonné au milieu d'un bois d'arbres séculaires, aux ramures gigantesques. On y monte par des escaliers de granit, en passant sous de très étranges portiques aussi rongés que les grandes pierres des Celtes. Les arbres ont envahi aussi cette cour. La lumière y est voilée, verdâtre. Il y tombe une pluie torrentielle mêlée de feuilles et de mousses arrachées. Des vieux monstres en granit de tournures inconnues sont assis dans les coins et font des grimaces d'une férocité souriante. Leurs figures expriment des mystères sans nom qui font frissonner au milieu de cette musique gémissante du vent, sous cette obscurité des nuages et des branches. Ils ne devaient pas ressembler aux japonais d'aujourd'hui, les hommes qui ont conçu tous ces temples d'autrefois, qui en ont construit partout, qui en ont rempli ce paysage jusque dans ces derniers recoins solitaires. Une heure plus tard, au crépuscule de cette journée de typhon, toujours dans cette même montagne, le hasard me conduit sous des arbres ressemblant à des chênes. Ils sont tordus toujours par ce vent, et les touffes d'herbe sous leurs pieds ondulent, couchées, rebroussées en tous sens. Là, je retrouve très nettement, tout d'un coup, ma première impression de grand vent dans les bois. Dans les bois de la Limoise, en Saintonge, il y a quelque 28 ans, à l'un des mois de mars de ma petite enfance. Il soufflait sur l'autre face du monde ce premier coup de vent que mes yeux ont vu dans la campagne, et les années rapides ont passé sur ce souvenir. Et depuis, le plus beau temps de ma vie s'est consumé. J'y reviens beaucoup trop souvent à mon enfance, j'en rabâche en vérité. Mais il me semble que je n'ai eu les impressions des sensations qu'en ce temps-là. Les moindres choses que je voyais ou que j'entendais avaient alors des dessous d'une profondeur insondable et infinie. C'était comme des images réveillées, des rappels d'existences antérieures, ou bien c'était comme des pressentiments d'existences à venir, d'incarnations futures dans des pays de rêve, et puis des attentes de merveilles de toutes sortes, que le monde et la vie me réservaient sans doute pour plus tard, pour quand je grandirais. Eh bien, j'ai grandi, et n'ai rien trouvé sur ma route de toutes ces choses vaguement entrevues. Au contraire, tout s'est rétréci et obscurci peu à peu autour de moi. Les souvenirs se sont effacés, les horizons d'en avant se sont lentement refermés, replis de ténèbres grises. Il sera bientôt l'heure de m'en retourner dans l'éternelle poussière. Je m'en irai sans avoir compris le pourquoi mystérieux de tous ces mirages de mon enfance. J'emporterai avec moi le regret de je ne sais quelle patrie jamais retrouvée, de je ne sais quels êtres désirés ardemment et jamais embrassés. Monsieur Sucre, avec mille grâces, du bout de son fin pinceau trempé dans l'encre de Chine, a tracé sur une jolie feuille de papier de riz deux cigognes charmantes et me les a offertes de la manière la plus aimable, comme un souvenir de lui. Elles sont là, dans ma chambre de bord, et dès que je les regarde, je crois revoir Monsieur Sucre, les traçant à main levée avec une si élégante aisance. Le godet dans lequel Monsieur Sucre délaisse son encre est lui-même un vrai bijou. Taillé dans un bloc de jade, il représente un petit lac avec un rebord fouillé en manière de rocaille. Et sur ce rebord, il y a une petite maman crapaud, également en jade, qui s'avance comme pour se baigner dans le petit lac où Monsieur Sucre entretient quelques gouttelettes d'un liquide bien noir. Et cette maman crapaud a 4 petits enfants, crapauds également, en jade, l'un perché sur sa tête, les 3 autres folâtrant sous son ventre. Monsieur Sucre a peint beaucoup de cigognes dans le courant de sa vie, et il excelle vraiment à représenter des groupes, des duos, si l'on peut s'exprimer ainsi, de ce genre d'oiseaux. Peu de Japonais ont le don d'interpréter ce sujet d'une manière aussi rapide et aussi galante. D'abord les 2 becs, puis les 4 pattes, ensuite les dos, les plumes, cac, 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 une douzaine de coups de son habile pinceau tenu d'une main très joliment posée, essayait, et d'un réussi toujours. Monsieur Kangourou raconte, sans y trouver à redire d'ailleurs, qu'autrefois ce talent a rendu de grands services à Monsieur Sucre. C'est que Madame Prune, paraît-il, enfin, mon Dieu, comment dire cela, et qui s'en douterait à présent, voyant une vieille dame si dévote, si bien posée, ayant des sourcils rasés si correctement. Enfin, Madame Prune, paraît-il, recevait autrefois beaucoup de messieurs, des messieurs qui venaient toujours isolément, et cela donnait à penser. Or, quand Madame Prune était occupée avec une visite, si un nouvel arrivant se présentait sur son ingénu mari pour le faire attendre, le captiver dans l'antichambre, le retenir, s'offrait aussitôt à lui peindre quelques cigognes dans des attitudes variées. Voilà comment, à Nagasaki, tous les messieurs japonais d'un certain âge possèdent dans leur collection deux ou trois de ces petits tableaux de genre qu'ils doivent au talent si fin et si personnel de M. Sucre. Dimanche 25 août. Vers 6 heures du soir, pendant mon quart, la triomphante quitte sa prison creusée entre les montagnes et sort du bassin. Grand tapage de manœuvre, puis nous mouillons sur rade à notre ancienne place, au pied des collines de Dugenji. Le temps est redevenu calme, sans un nuage. Il a cette limpidité particulière au ciel que les typhons ont balayé, transparence excessive, permettant de distinguer dans les lointains d'infimes détails qu'on n'avait encore jamais vus, comme si le grand souffle terrible avait emporté jusqu'aux plus légères brumes errantes, ne laissant partout qu'un vide profond et clair. Et après ces pluies, les couleurs vertes des bois, des montagnes, sont devenues d'une splendeur printanière, se sont rafraîchies, comme s'avivent d'un éclat mouillé les tons d'une peinture fraîchement lavée. Les sampans et les jonques, qui depuis 3 jours s'étaient tenus blottis, s'en vont vers le large. La baie est couverte de leurs voiles blanches. On dirait la migration, l'essor d'une peuplade d'oiseaux de mer. À 8 heures, à la nuit, la manœuvre étant terminée, je m'embarque avec Yves dans un sampan. C'est lui qui m'entraîne cette fois et veut me ramener dans mon logis. À terre, une bonne odeur de foin mouillé, un clair de lune admirable dans les chemins de la montagne. Nous montons tout droit à Dugenji, retrouver Chrysanthème, que j'ai presque un remords, sans qu'il y paraisse, d'avoir abandonné si longtemps. En regardant en l'air, je reconnais de loin ma maisonnette, là-haut perchée. Elle est toute ouverte, très éclairée, et on y joue de la guitare. Voici même que j'aperçois la tête d'or de mon Bouddha entre les petits feux brillants de ses deux veilleuses suspendues. Puis Chrysanthème apparaît aussi sous la véranda, en silhouette très nippone, avec ses belles coques de cheveux et ses longues manches retombantes, accoudée comme pour nous attendre. Quand j'entre, elle vient m'embrasser d'une manière un peu hésitante mais gentille, tandis que Yoki, plus expansive, m'enlace à plein bras. Et je revois, sans déplaisir, ce logis japonais dont j'avais presque oublié l'existence, que je m'étonne de retrouver encore mien. Chrysanthème a mis dans nos vases de belles fleurs nouvelles. Comme pour une fête, elle a élargi sa coiffure, pris sa plus belle robe, allumé nos lampes. Ayant vu de son balcon sortir la triomphante, elle espérait bien que nous allions enfin revenir, et ses préparatifs terminés, pour occuper ses heures d'attente, elle étudiait un duo de guitare avec Oyuki. Pas de question ni de reproche, au contraire. « Nous avons bien compris, dit-elle, par un temps si affreux, entreprendre une traversée si longue en sampant sur la rade. » Elle sourit comme une petite fille qui est contente. Et vraiment, il faudrait être difficile pour ne pas convenir qu'elle est mignonne ce soir. Alors, j'annonce que nous descendrons sans plus tarder vers une grande promenade en Asakasi. Nous emmènerons Yuki-san, deux cousines de Chrysanthème qui se trouvent là, et d'autres petites voisines, encore si cela leur fait plaisir. Nous achèterons les jouets les plus drôles, nous mangerons toute espèce de gâteaux, nous nous amuserons beaucoup. Comme nous arrivons bien, disent-elles en sautant de joie, comme nous arrivons à point, Justement, il y a pèlerinage de nuit au grand temple de la tortue sauteuse. Toute la ville y sera. Tous les camarades mariés viennent de partir. Toute la bande, X, Y, Z, Toukissan, Campanule, Jonquille, avec l'ami d'un invraisemblable auteur. Et elles deux, pauvres Chrysanthème, pauvres Yuki-san, le cœur très gros, restait au logis, parce que nous n'étions pas là, et parce que Madame Prune, après son dîner, avait été prise de pamoison et de vapeur. Vite la toilette des moussemets. Chrysanthème est déjà prête. Oyuki change de robe à la hâte, s'habille de gris souris, me prie d'arranger le nœud bouffant de sa belle ceinture, qui est en satin noir, doublé de jaune-orange, et plante bien haut dans ses cheveux un pompon d'argent. Nous allumons nos lanternes au bout de bâtonnets. Monsieur Sucre remercie pour sa fille, remercie à n'en plus finir, nous reconduit, tombe à quatre pattes sur sa porte, et nous nous éloignons assez gaiement dans la nuit transparente et douce. En effet, la ville en bas est dans une animation de grande fête. Les rues sont pleines de monde. La foule passe comme un florilleur capricieux, lent, inégal, mais s'écoule tout entière dans la même direction vers un but unique. Il en sort un bourdonnement immense, mais cependant léger, où dominent le rire et les formules polies que l'on échange à voix basse. Des lanternes et des lanternes. De ma vie, je n'en avais jamais tant vu ni de si bariolé, ni de si compliqué, de si extraordinaire. Nous suivons comme en dérive dans ce flot humain, comme entraînés par lui. Il y a des bandes de femmes de tous les âges en toilette parée, surtout des moussemets innombrables, ayant dans les cheveux des piquets de fleurs ou, à la manière de Yuki, des pompons d'argent. Petits minois chiffonnés, petits yeux bridés de chat naissant, joues rondelettes et palates ballant un peu aux abords de lèvres entrouvertes. Gentilles quand même, ces petites nippones, à force d'enfantillage et de sourire. Du côté des hommes, beaucoup de chapeaux melons, ajoutés pour plus de pompe à la longue robe nationale, et complétant bien ces laideurs gaies de singes savants. Ils tiennent à la main des branches, des arbustes entiers quelquefois, d'où pendent, mêlés au feuillage, les plus bizarres de toutes les lanternes ayant des formes de diablotins ou d'oiseaux. À mesure que nous avançons dans la direction de ce temple, les rues deviennent plus encombrées, plus bruyantes. Il y a maintenant tout le long des maisons des étalages sans fin sur des tréteaux. Des bonbons de toutes couleurs, des jouets, des branches fleuries, des bouquets, des masques. Des masques surtout. En voici de pleines caisses, de pleines charrettes. Le plus répandu est celui qui représente le museau blême et rusé, contracté en rictus de mort, les grandes oreilles droites et les dents pointues du renard blanc, consacré au dieu du riz. Il y a d'autres figures symboliques de dieux ou de monstres, toutes livides, grimaçantes, convulsionnées, ayant de vrais cheveux et de vrais poils. Des gens quelconques, des enfants même, achètent ces épouvantails et se les attachent sur la figure. On vend aussi toutes sortes d'instruments de musique. Beaucoup de ces trompettes en cristal, dont le son est si étrange, mais d'énormes ce soir, 2 mètres de long pour le moins. Le bruit qu'elles font ne ressemble plus à rien de connu. On croirait entendre, au milieu de la foule des dindons gigantesques, gloussant pour se faire peur. Dans les amusements religieux de ce peuple, il ne nous est pas possible à nous de pénétrer les dessous pleins de mystères que les choses peuvent avoir. Nous ne pouvons pas dire où finit la plaisanterie et où la frayeur mystique commence. Ces usages, ces symboles, ces figures, tout ce que la tradition et l'atavisme ont entassé dans les cervelles japonaises, provient d'origines profondément ténébreuses pour nous. Même les plus vieux livres ne nous l'expliqueront jamais que d'une manière superficielle et impuissante. parce que nous ne sommes pas les pareils de ces gens-là. Nous passons, sans bien comprendre, au milieu de leur gaieté et de leur rire, qui sont au rebours des nôtres. Chrysanthème avec Yves, Yoki et moi, avec Fraise et Zinzania, nos cousines, marchant devant nous sous notre surveillance, nous continuons de suivre la foule, nous tenant la main deux par deux, de peur de nous perdre. Tout le long des rues qui mènent à ce temple, les gens riches ont exposé dans leurs maisons des séries de vases et de bouquets. La forme hangar qu'ont toutes les habitations de ce pays, leur espèce de devanture foraine et d'estrade, sont très favorables à ces exhibitions de choses délicates. On a laissé tout ouvert et l'on a tendu à l'intérieur des voiles qui masquent les profondeurs du logis. En avant de ces draperies, généralement blanches et un peu en retrait de la foule qui passe, on a correctement aligné les objets exposés que mettent en pleine lumière des lampes suspendues. Presque pas de fleurs dans ces bouquets, des feuillages seulement, les uns frêles et rares, introuvables, les autres choisis comme à dessein parmi les plus communs, mais arrangés avec un art qui en fait quelque chose de nouveau et de distingué. De vulgaires feuilles de salade, de grands choux montés, prenant des poses artificielles exquises dans des urnes merveilleuses. Tous les vases sont en bronze, mais le dessin en est varié à l'infini, avec la fantaisie la plus changeante. On en voit de compliqués et de tourmentés, d'autres en plus grand nombre qui sont sveltes et simples, mais d'une simplicité si cherchée que pour nos yeux c'est comme une révélation d'inconnu, comme un renversement de toutes les notions acquises sur la forme. À un tournant de rue, nous faisons la plus heureuse des rencontres, nos camarades mariés de la triomphante et les jonquilles et les toukissan et les campanules. Salut, révérence entre mousmets, manifestation réciproque de la joie de se revoir, puis formant une bande compacte et entraînée par la foule qui augmente encore, nous continuons de nous acheminer vers le temple. Les rues suivent une pente ascendante, car les temples sont toujours sur des hauteurs, et à mesure que nous montons, à la féerie des lanternes et des costumes, s'en ajoute une autre qui est lointaine, bleuâtre, vaporeuse. Tout Nagasaki, avec ses pagodes, ses montagnes, ses eaux tranquilles pleines de rayons et de lune, s'élevant en même temps que nous dans l'air. Lentement, pas à pas, si l'on peut dire, cela surgit alentour, enveloppant d'un grand décor diaphane tous ses premiers plans, où papillotent des lumières rouges et des banderoles de toutes couleurs. Nous approchons sans doute, car voici des énormes granits religieux, les escaliers, les portiques et les monstres. Il nous faut gravir maintenant des séries de marches, portées presque par le flot des fidèles qui montent avec nous. La cour du temple, nous sommes arrivés. C'est le dernier et le plus étonnant tableau de la féerie de ce soir. Tableau lumineux et profond, qui a des lointains fantastiques éclairés par la lune, et au-dessus duquel des arbres gigantesques, les cryptomérias sacrées, étendent comme un dôme leurs branches noires. Nous voilà assis tous, avec nos mousmets, sous le tendelet enguirlandé de fleurs d'une des nombreuses petites maisons de thé que l'on a improvisées dans cette cour. Nous sommes sur une terrasse, en haut des grands escaliers, par où la foule continue d'affluer. Nous sommes au pied d'un portique qui se dresse tout d'une pièce dans le ciel de la nuit, avec une massive rigidité de colosse. Au pied aussi d'un monstre qui abaisse vers nous le regard de ses gros yeux de pierre, sa grimace méchante et son rire. Ce portique et ce monstre sont les deux grandes choses écrasantes du premier plan, dans le décor invraisemblable de cette fête. Il se découpe avec une hardiesse un peu vertigineuse sur tout ce bleu vague et cendré là-bas qui est le lointain, l'air, le vide. Derrière eux, Nagasaki se déroule à vol d'oiseau, très faiblement dessiné dans de l'obscurité transparente avec des myriades de petits feux de couleur. Puis les montagnes esquissent sur le ciel plein d'étoiles leurs dentelures exagérées. Bleuâtre sur bleuâtre, diaphane sur diaphane. Et un coin de la rade apparaît aussi, très haut, très indécis, très pâle, ayant l'air d'un lac monté dans les nuages, les eaux ne se devinant qu'à un reflet de lumière lunaire qui les fait resplendir comme une nappe argentée. Autour de nous gloussent toujours les longues trompettes de cristal. Comme les ombres de fantasmagorie, passent et repassent des groupes de gens polis et frivoles, des bandes enfantines de ces mouspés à petits yeux dont le sourire est d'une insignifiance si fraîche et dont les beaux yeux chignons luisent piqués de fleurs en argent. Et des hommes très laids promènent sans cesse au bout de branches leurs lanternes en forme d'oiseaux, de dieux, d'insectes. Derrière nous, le temple tout illuminé, tout ouvert. Les bons, assis en théories immobiles, dans le sanctuaire étincelant d'or qu'habitent les divinités, les chimères et les symboles. La foule, avec son bourdonnement monotone de rire et de prière, se presse autour, lançant à pleine main ses offrandes. Avec un bruit continuel, le métal monnayé roule à terre dans l'enceinte réservée aux prêtres, où des nappes blanches disparaissent complètement sous les pièces de toutes les grandeurs amoncelées comme après un déluge d'argent et de bronze. Nous sommes là, nous, très dépaysés dans cette fête, regardant, riant puisqu'il faut rire, disant des choses obscures et niaises dans une langue insuffisamment apprise, que ce soir, troublé par je ne sais quoi, nous n'entendons même plus. Il fait très chaud sous notre temps de lait, qu'agite pourtant une brise de nuit. Nous absorbons dans des tasses de petits sorbets drôles, ressemblant à du givre parfumé, ou bien ayant un goût de fleurs dans de la neige. Nos mousmés se sont fait servir à plein bol des haricots au sucre mêlés à de la grêle, à de vrais grêlons comme on en ramasserait après une giboulée de mars. Glou, 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 font lentement les trompettes de cristal, avec une sonorité qui semble puissante, mais cependant pénible, et comme étouffée dans de l'eau. Partout teintent des crécelles, bruissent durement des claques-bois. Nous avons l'impression d'être enlevés, nous aussi, dans l'immense élan de cette gaieté incompréhensible, à laquelle se mêle, dans une proportion que nous ne savons même pas apprécier, quelque chose de mystique, je ne sais quoi, de puéril et de macabre en même temps. Une sorte d'horreur religieuse est répandue par ces idoles que nous devinons derrière nous dans le temple, par ces prières confusément entendues, surtout par ces têtes de renards blancs en bois laqué, cachant de temps à autre les visages humains qui passent par tous ces affreux masques blêmes. Dans les jardins et les dépendances de ce temple se sont installés d'inimaginables saltimbanques dont les banderoles noires, bariolées de lettres blanches, au bout de hampes gigantesques, flottent au vent comme des ornements de catafalques. Nous nous y rendons en troupe quand nos mousmés ont achevé leur dévotion et jeté leurs offrandes. Dans une baraque de cette foire, un homme est seul en scène, étendu à plat d'eau sur une table. De son ventre surgissent des marionnettes de grandeur presque humaine, avec d'horribles masques louches. Elles parlent, gesticulent, puis s'effondrent comme des loques vides, remontent de nouveau d'une poussée brusque, comme mues par un ressort, changent de costume, changent de figure, se démène dans une frénésie continuelle. À un moment donné, il en paraît jusqu'à trois, quatre à la fois. Ce sont les quatre membres de l'homme couché, ses deux jambes en l'air et ses deux bras habillés chacun d'une robe, coiffée d'une perruque et surmontée d'un masque. Des scènes, des batailles à grands coups de sabre se passent entre ces fantômes. Ah, il y a surtout une marionnette de vieille femme qui fait peur. Chaque fois qu'elle reparaît avec sa tête plate au rire de cadavre, les lampes se baissent. La musique à l'orchestre devient une sorte de gémissement de flûte très sinistre, avec un trémolo de claque-bois qui fait songer à des os entrechoqués. Évidemment, elle joue dans la pièce un très vilain rôle, cette personne. Elle doit être une vieille goule malfaisante et affamée. Ce qu'elle a de plus effrayant, c'est son ombre, toujours projetée avec une netteté voulue sur un écran blanc. Par un procédé qui ne s'explique pas, cette ombre qui suit tous ses mouvements comme une ombre véritable est celle d'un loup. À un moment donné, la vieille se retourne, présente de côté son nez camu pour accepter un bol de riz qu'on lui offre. Alors, sur l'écran, on voit le profil du loup s'allonger avec ses deux oreilles droites, son museau, ses babines, ses dents, sa langue qui sort. L'orchestre en sourdine grince, gémit, tremblote, puis éclate en cris funèbres comme un concert de hibou. C'est qu'à présent la vieille mange, et l'ombre du loup mange aussi, remue ses mâchoires, grignote une autre ombre, très reconnaissable, un bras de petit enfant. Nous allons voir ensuite la grande salamandre du Japon. Une bête rare en ce pays et inconnue ailleurs sur la terre, grosse masse froide, lente et endormie, qui semble un essai antédiluvien, resté par oubli dans les eaux intérieures de ses archipels. Après l'éléphant savant dont nos mousmes ont peur, puis les équilibristes, la ménagerie. Il est 1 heure du matin quand nous sommes de retour chez nous à Dyūjinji. D'abord, nous couchons Yves dans sa petite chambre en papier qu'il a déjà habitée une nuit. Puis nous nous couchons nous-mêmes après les préparatifs de rigueur, la petite pipe fumée et le pom-pom-pom-pom sur le rebord de la boîte. Mais voici qu'en dormant, Yves se démène, se trémousse, envoie des coups de pied dans la cloison, fait un tapage affreux. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Moi, j'imagine qu'il rêve de la vieille femme à ombre de loup. L'étonnement se peint sur la figure de Chrysanthème qui s'est dressée sur son coude pour écouter. Tout à coup, un trait de lumière, elle a compris ce qui le tourmente. « Car, les moustiques, dit-elle. Et pour mieux me faire saisir de quelle bête elle veut parler, elle me pince au bras très fort du bout de ses petits ongles pointus, tout en imitant avec un jeu de figure impayable la grimace de quelqu'un qui se sentirait piqué. « Oh ! Mais je trouve cette mimique excessive et inutile, Chrysanthème. Je connaissais le mot cas. J'avais parfaitement compris, je t'assure. Mais c'est fait si drôlement et si vite, avec une moue si réussie, que je n'ai dans le fond nulle idée de me fâcher. Cependant, j'emporterai demain une marque bleue, c'est bien certain. Voyons, il faut nous lever pour prêter secours à Yves, qui ne peut pas continuer à tambouriner de cette manière. Allons regarder avec une lanterne ce qu'il a, ce qui lui arrive. Ce sont bien les moustiques en effet. Ils volent en nuages autour de lui, tous ceux de la maison et tous ceux des jardins, assemblés et bourdonnants. Chrysanthème indigné en brûle plusieurs à la flamme de sa lanterne, m'en montre d'autres, ouh, partout posés sur le papier blanc du mur. Lui dort toujours avec la fatigue de la journée, mais d'un sommeil agité, cela se comprend. Et Chrysanthème le secoue pour l'emmener auprès de nous sous notre moustiquaire bleu. Il se laisse faire après quelques cérémonies, se lève comme un grand enfant mal éveillé pour nous suivre, et moi je ne trouve rien à redire en somme à ce couchage à trois. C'est si peu un lit ce que nous partageons là, et nous y dormirons tout habillés comme toujours, suivant l'usage nippon. En voyage, en chemin de fer, est-ce que les dames les plus recommandables ne s'étendent pas ainsi sans penser à mal auprès de messieurs quelconques? Seulement, j'ai placé le petit chevalet à nuque de chrysanthème au centre de la tente de gaz, entre nos deux oreillers à nous, pour observer, pour voir. Elle, alors, très digne, sans rien dire, comme rectifiant une erreur d'étiquette que j'aurais commise par mégarde, l'enlève et met à la place mon tambour en peau de couleuvre. Je serai donc au milieu les séparant. C'est plus correct, en effet. Oh, c'est décidément très bien. Et Chrysanthème est une personne de beaucoup de tenue. En rentrant à bord, le lendemain matin, au clair soleil de 7 heures, nous cheminons dans les sentiers pleins de rosées, avec une bande de petites mousmées de 6 ou 8 ans, absolument comiques, qui se rendent à l'école. Les cigales, cela va sans dire, font autour de nous leur joli bruit sonore. La montagne sent bon. Fraîcheur de l'air, fraîcheur de la lumière, fraîcheur enfantine de ces petites filles en longue robe et en beau chignon apprêtés. Fraîcheur de ces fleurs et de ces herbes sur lesquelles nous marchons et qui sont semées de gouttelettes d'eau. Comme c'est éternellement joli, même au Japon, les matins de la campagne et les matins de la vie humaine. D'ailleurs, je reconnais le charme des petits enfants japonais. Il y en a d'adorables. Mais ce charme qu'ils ont, comment passe-t-il si vite pour devenir la grimace vieillotte, la laideur souriante, l'air singe? Le jardinet de Madame Renoncule, ma belle-mère, est un des sites les plus mélancoliques sans contredit qu'il m'ait été donné de rencontrer dans mes courses par le monde. Oh, les heures lentes, les heures énervantes et grises, passées à dire des choses fades, confuses, en mangeant dans de tout petits pots des confitures poivrées, sous la véranda qui reçoit de ce jardin une lumière affaiblie. En pleine ville, encaissée entre des murs, ce parc de 4 mètres carrés avec des petits lacs, des petites montagnes, des petits rochers et une teinte de vétusté verdâtre, une moisissure barbue recouvrant tout cela qui jamais n'a vu le soleil. Cependant, un incontestable sentiment de la nature a présidé à cette réduction microscopique d'un site sauvage. Les rochers sont bien posés. Les cèdres nains, pas plus hauts que des choux, étendent sur les vallées leurs branches noueuses avec des attitudes de géants fatigués par les siècles. Et leur air, grand arbre, déroute la vue, fausse la perspective. Du fond sombre de l'appartement, quand on aperçoit dans un certain recul ce paysage relativement éclairé, on en vient presque à se demander s'il est factice ou si, plutôt, on n'est pas soi-même le jouet de quelque illusion maladive, si ce n'est pas de la vraie campagne aperçue avec des yeux dérangés, plus au point ou bien regardée par le mauvais bout d'une lorgnette. Pour qui a quelque notion de japonnerie, l'intérieur de ma belle-mère révèle à lui seul une personne raffinée. Nudité complète, à peine 2 ou 3 petits paravents posés çà et là, une théière, un vase où trempent des lotus, rien de plus. Des boiseries sans aucune peinture ni vernis, mais ajourées avec une capricieuse mignardise, très finement menuisée, et dont on entretient la blancheur de sapin neuf par de fréquents lavages d'eau savon. Les piliers de bois qui soutiennent la charpente sont variés avec la plus spirituelle fantaisie, Les uns ont des formes géométriques d'une précision parfaite, les autres se tordent artificiellement comme de vieux troncs d'arbres enlacés de lianes. Il y en a partout, des petites cachettes, des petites niches, des petits placards, dissimulés de la manière la plus ingénieuse et la plus inattendue, sous l'uniformité immaculée des panneaux de papier blanc. Je souris en moi-même au souvenir de certains salons dits japonais, encombrés de bibelots étendus de grossières broderies d'or sur satin d'exportation que j'ai vu chez les belles parisiennes. Je leur conseille à ces personnes de venir regarder comment sont ici les maisons des gens de goût, de venir visiter les solitudes blanches des palais de Yeddo. En France, on a des objets d'art pour en jouir, ici pour les enfermer, bien étiquetés, dans une sorte d'appartement mystérieux, souterrain, grillé en fer, qu'on appelle Godun. En de rares occasions, seulement pour faire honneur à quelques visiteurs de distinction, on ouvre ce lieu impénétrable. Une propreté minutieuse, excessive, des nattes blanches, du bois blanc, une simplicité apparente extrême dans l'ensemble, et une incroyable préciosité dans les détails infiniment petits. Telle est la manière japonaise de comprendre le luxe intérieur. Ma belle-mère me paraît vraiment une femme fort bien. N'est-elle les sentiments spliniques insurmontables que son jardinier m'inspire, je la visiterai souvent. Rien de commun avec les mamans de jonquilles, de campanules, de touquis. Infiniment mieux que tout cela. Et puis des restes de charme, d'assez belles allures. Son passé m'intrigue et cependant, vu ma qualité de gendre, la bienséance m'empêche de pousser trop loin mes questions. D'aucuns prétendent que c'est une ancienne geisha, jadis renommée à Yeddo, puis déchue de la faveur du public élégant pour avoir eu l'étourderie de devenir mère. Cela expliquerait bien le talent de sa fille sur la guitare. Elle lui aurait inculqué elle-même le doigté et la manière du conservatoire. Depuis Chrysanthème, l'aînée et la première cause de cette déchéance, ma belle-mère, nature expansive, bien que distinguée, est retombée 7 fois encore dans la même erreur. 2 petites belles-sœurs cadettes, Mademoiselle la Neige et Mademoiselle la Lune, 5 petits beaux-frères puinés, cerisiers, pigeons, liserons, or et bambou. 4 ans, ce petit bambou, un bébé jaune, tout rond, avec de beaux yeux brillants, câlin et joyeux, endormi tout de suite dès qu'il a fini de rire. De toute ma famille nippone, c'est ce bambou que j'aime le plus. Mardi 27 août. Nous avons passé la journée à errer dans des quartiers poussiéreux et sombres, cherchant des choses antiques chez les bric-à-brac, Yves, Chrysanthème, Oyuki et moi, traînés par 4 djinns accélérés. Vers le coucher du soleil, Chrysanthème, qui m'ennuie davantage depuis ce matin et qui s'en est sans doute aperçu, fait une moue très longue, se dit malade, et demande la permission d'aller pour ce soir coucher chez Madame Renoncule, sa mère. J'accorde cela de tout mon cœur, qu'elle s'en aille, cette moussemée. Oyuki préviendra ses parents qui fermeront notre chambre, et nous passerons la soirée à courir à notre fantaisie, Yves et moi, sans traîner aucune moussemée à nos trousses. Et après, nous rentrerons, nous coucher chez nous, sur la triomphante, sans avoir la peine de grimper là-haut. Nous essayons d'abord d'aller dîner tous les deux dans quelques maisons de thé élégantes. Impossible, il n'y a de place nulle part. tous les appartements de papier, tous les compartiments à trucs et à glissières, tous les recoins de jardinets sont remplis de japonais et de japonaises mangeant d'incroyables petites choses. Beaucoup de jeunes dandies en partie fine, de la musique en cabinet particulier, des danseuses. C'est qu'aujourd'hui est le troisième et dernier jour de ce grand pèlerinage au temple de la tortue sauteuse dont nous avons vu le début avant-hier, et alors tout Nagasaki s'amuse. À la maison de thé des papillons indescriptibles, qui est aussi bondée mais où nous sommes avantageusement connus, on imagine de jeter un plancher volant par-dessus le petit lac, par-dessus le bassin à poissons rouges, et c'est là qu'on nous sert, dans la fraîcheur agréable du jet d'eau qui continue de bruire sous nos pieds. Après dîner, nous suivons les fidèles et nous remontons au temple. Là-haut, même féerie, même masque, même musique. Comme avant-hier, nous nous asseyons sous un tendelet quelconque pour boire des petits sorbets drôles parfumés aux fleurs. Mais nous sommes seuls ce soir, et l'absence de cette bande de mousmets aux minois familiers qui était comme un trait d'union entre ce peuple en fête et nous-mêmes, nous sépare, nous isole davantage de toute cette débauche d'étrangeté au milieu de laquelle nous nous sentons comme perdus. Il y a toujours là-bas l'immense décor bleuâtre, Nagasaki éclairé par la lune, avec la nappe argentée des eaux qui semble une vision vaporeuse suspendue dans le vide. Et derrière nous, le grand temple ouvert, où les bons officient au bruit des grelots sacrés et des claques-bois, pareil à de petites marionnettes vues d'où nous sommes, les uns accroupis en rang comme de tranquilles momies, les autres exécutant des marches rythmées devant ce fond tout en or où se tiennent les dieux. Nous ne rions pas ce soir, et nous parlons peu, plus frappés que la première nuit. Nous regardons seulement, cherchant à comprendre. Tout à coup, Yves se retournant, dit « Frère, votre mousmée ?» En effet, elle est là derrière lui, chrysanthème, presque par terre, caché entre les pattes d'une grosse bête en granit moitié tigre, moitié chien, contre laquelle s'appuie notre tante fragile. Comme un petit chat, elle m'a tiré avec ses ongles par mon bas de pantalon, dit Yves très saisi. Oh, mais tout à fait comme un petit chat. Elle se tient courbée, prosternée en révérence très humble. Elle sourit timidement dans la crainte d'être mal reçue, et la tête de mon petit beau-frère Bambou se dresse, souriant aussi au-dessus de la sienne. Elle l'a porté avec elle à califourchon sur ses reins, ce petit mousco toujours impayable, lui, avec sa tonsure, sa longue robe et les grosses coques de sa ceinture de soie. Et ils nous regardent tous deux, inquiets, de savoir comment nous allons prendre leur équipée. Mon Dieu, je n'ai nulle envie de leur faire mauvais accueil, au contraire, leur apparition m'amuse. Je trouve même très gentil de la part de Chrysanthème, cette façon d'être revenue et cette idée d'avoir apporté Bambou-san à la fête, bien que ce soit assez peuple, à vrai dire, de se l'être attaché sur le dos, comme font les pauvresses nippones pour leurs petits. Allons, qu'elle s'asseye entre Yves et moi, qu'on lui serve de ses haricots à la grêle qu'elle aime tant. Puis prenons sur nos genoux le beau petit mousco, et qu'il mange à sa discrétion des bonbons et du sucre. La soirée finie, quand il s'agit de redescendre, de nous en aller, Chrysanthème replace son petit bambou à cheval sur son dos et se met en marche, toute fléchie en avant sous ce poids, toute courbée, traînant péniblement ses socs de cendrillon sur les marches de granit et les dalles. Oui, bien peuple, en effet, cette allure, mais dans l'acception la meilleure de ce mot peuple. Rien là-dedans qui me déplaise. Je trouve même que Chrysanthème, dans son affection pour Bambusan, est simple et attachante. On ne peut d'ailleurs refuser cela aux Japonais. L'amour des petits-enfants et un talent pour les amuser, les faire rire, leur inventer des joujoux comiques, les rendre joyeux au début de la vie. Une vraie spécialité aussi pour les coiffer, les attifer, tirer de leur personne l'aspect le plus divertissant possible. C'est la seule chose que j'aime dans ce pays, les bébés et la manière dont on sait les comprendre. En route, nous rencontrons les amis mariés de la triomphante qui plaisante à mes dépens, très surpris de me voir avec ce mousco, demandant « C'est déjà votre fils ?» Dans la ville en bas, nous faisons mine de dire adieu à Chrysanthème au tournant de la rue qui conduit chez sa mère. Elle sourit, indécise, se dit guérie et demande à retourner là-haut dans notre maison. Cela n'entrait pas dans mes projets, je l'avoue. Cependant, j'aurais mauvaise grâce à refuser. Soit, allons reporter le mousco à sa maman, puis nous commencerons à la lueur de quelques nouvelles lanternes achetées chez madame très propre, l'ascension pénible. Mais voici bien une autre aventure. Ce petit bambou, lui aussi, qui prétend venir. Absolument. Il veut que nous l'emmenions avec nous. Cela n'a pas le sens commun, par exemple. C'est tout à fait inadmissible. Pourtant, il ne faudrait pas le faire pleurer un soir de fête, ce mousco. Voyons, nous allons envoyer prévenir madame Renoncule pour qu'elle ne s'inquiète pas de lui, et comme il n'y aura plus personne tout à l'heure dans les sentiers de Jujenji pour se moquer de nous, un tour de rôle, nous le porterons sur notre dos, Yves et moi, tant que durera la grimpade noire. Et moi, qui ne voulais pas, ce soir, remonter cette route en traînant une mousmée par la main, voici que, pour surcroît, je porte un mousco sur mon dos. Quelle ironique destinée! Chez nous, comme je l'avais prévu, tout est clos, verrouillé. On ne nous attend pas, et il faut faire tapage à la porte. Chrysanthème se met de toute force à héler. « Oh, mais ça, non, non, non !» En français, « Ohé, Madame Prune !» Je ne connaissais pas cette intention-là à sa petite voix. Son appel traînant dans la sonorité obscure de minuit, un accent si étrange, si attendu, si bizarre, qu'il me donne une impression de lointain et extrême exil. Enfin, Madame Prune apparaît pour nous ouvrir, mal éveillée, très émue, coiffée de nuit dans un opulent turban en coton sur le fond bleu duquel folâtrent quelques cigognes blanches. Tenant du bout des doigts, avec une grâce épeurée, la longue tige de sa lanterne à fleurs, elle nous dévisage l'un après l'autre pour vérifier nos identités. Et elle n'en revient pas, pauvre dame, de ce mousco que je rapporte. D'abord, c'était la guitare de Chrysanthème que j'écoutais volontiers. À présent, c'est son chant que je commence à aimer aussi. Rien de la manière théâtrale ni de la grosse voix contrefaite des virtuoses. Au contraire, ses notes, toujours très hautes, sont douces, frêles et plaintives. Souvent, elle enseigne à Yoyuki quelques lentes et vagues romances qu'elle a composées ou qui lui revient en tête. Alors elle m'étonne toutes les deux, cherchant sur leurs guitares accordées des accompagnements en partie et se reprenant chaque fois qu'un son n'est pas rigoureusement juste à leur oreille, mais sans s'embrouiller jamais dans ces harmonies dissonantes, étranges et toujours tristes. Moi, le plus souvent, tandis que se fait leur musique, j'écris sous la véranda devant le panorama superbe. J'écris par terre, assis sur une natte, et m'appuyant sur un petit pupitre japonais orné de sauterelles en relief. Mon encre est chinoise. Mon encrier, pareil à celui de mon propriétaire, est en jade, avec des crapauds mignons et des crapoussins sculptés sur le rebord. Et j'écris mes mémoires, en somme, tout à fait comme en bas, Monsieur Sucre. Par moments, je me figure que je lui ressemble, mais cela m'est bien désagréable. Mes mémoires, qui ne se composent que de détails saugrenus, de minutieuses notations de couleurs, de formes, de senteurs et de bruits. Il est vrai, tout un imbroglio de romans semble poindre à mon horizon monotone. Toute une intrigue paraît vouloir se nouer au milieu de ce petit monde de mousmets et de cigales. Chrysanthème, amoureuse d'Yves, Yves de Chrysanthème, Oyuki de moi, moi de personne. Il y aurait même là matière à un gros drame fratricide si nous étions dans un autre pays que celui-ci. Mais nous sommes au Japon, et vu l'influence de ce milieu qui atténue, rapetisse, drôlatise, il n'en résultera rien du tout. Il y a dans ce Nagasaki un instant de la journée qui est comique entre tous. C'est le soir vers 5 ou 6 heures. À ce moment-là, les gens sont tout nus, les enfants, les jeunes, les vieux, les vieilles, chacun assis dans une jarre prenant son bain. Cela se passe n'importe où, sans le moindre voile, dans les jardins, dans les cours, dans les boutiques, voire même sur les portes, pour plus de facilité à causer entre voisins d'un côté de la rue à l'autre. On reçoit dans cette situation. Sans hésiter, on sort de sa cuve, tenant à la main sa petite serviette invariablement bleue, pour faire asseoir le visiteur qui se présente et lui donner la réplique enjouée. Cependant, elle ne gagne pas les mousmets, ni les vieilles dames, à se produire dans cette tenue. Une japonaise, dépourvue de sa longue robe et de sa large ceinture aux coques apprêtées, n'est plus qu'un être minuscule et jaune, aux jambes torses, à la gorge grêle et piriforme, n'a plus rien de son petit charme artificiel qui s'en est allé complètement avec le costume. Il y a là une heure à la fois joyeuse et mélancolique. C'est un peu plus tard, au crépuscule, quand le ciel semble un grand voile jaune dans lequel montent les découpures des montagnes et des hautes pagodes. C'est l'heure où en bas, dans le dédale des petites rues grisâtres, les lampes sacrées commencent à briller au fond des maisons toujours ouvertes, devant les autels d'ancêtres et les bouddhas familiers, tandis qu'au dehors, tout s'obscurcit et que les 1000 dentelures des vieux toits se dessinent en festons noirs sur ce ciel d'or clair. À ce moment-là, passe sur ce Japon rieur une impression de sombre, d'étrange, d'antique, de sauvage, de je ne sais quoi d'indicible qui est triste. Et la gaieté, alors la seule gaieté qui reste, c'est cette peuplade d'enfants, de petits mouscots et de petites mousmets qui se répand comme un flot dans les rues pleines d'ombre, sortant des ateliers et des écoles. Sur la nuance foncée de toutes ces constructions de bois, paraissent plus éclatantes les petites robes bleues ou rouges, drôlement bigarrées, drôlement troussées, et les beaux nœuds des ceintures et les fleurs et les pompons d'argent ou d'or piqués dans ses chignons de bébé. Elles se poursuivent et s'amusent en agitant leurs grandes manches pagodes, les toutes petites mousmets de 10 ans, de 5 ans ou même de moins encore, ayant déjà de hautes coiffures et d'imposantes coques de cheveux comme les dames. Oh, les amours de poupées impayables, qui à cette heure crépusculaire gambadent en robes très longues, soufflant dans des trompettes de cristal ou courant à toutes jambes pour lancer des cerfs-volants inouïs. tout ce petit monde nippon, baroque par naissance, et appelé à le devenir encore plus en prenant des années, débute dans la vie par des amusements singuliers et des cris bizarres. Ces jouets sont un peu macabres et feraient peur aux enfants d'un autre pays. Ces cerfs-volants ont de gros yeux louches et des tournures de vampires. Et chaque soir, dans les petites rues sombres, déborde cette gaieté franche, enfantine, mais fantasque à l'excès. On n'imagine pas tout ce qu'il y a eu en l'air, parfois d'incroyables choses qui voltigent au vent. Toujours des vêtements de couleur sombre, cette petite chrysanthème, ce qui est ici un signe de distinction réelle. Tandis que ses amis, Yoki-san, Madame Tuki et les autres portent volontiers des étoffes bariolées, se plantent dans le chignon des pompons éclatants, elle s'habille de bleu marine ou de gris neutre, s'attache à la taille de larges ceintures noires brochées de nuances discrètes, et ne met jamais rien dans ses cheveux que des épingles d'écailles blondes. Si elle était de race noble, elle porterait au milieu du dos un petit cercle blanc brodé sur sa robe, apposé comme une estampille avec au milieu un dessin quelconque, une feuille d'arbre en général, et ce serait là ses armes. Vraiment, il ne lui manque que ce petit blason dorsal pour avoir la tenue d'une femme très comme il faut. Au Japon, les belles robes claires, nuancées en nuages, brodées de chimères d'argent ou d'or, sont réservées pour les grandes dames dans leur intérieur, en certaines occasions d'apparat, ou alors pour le théâtre, pour les danseuses, et pour les filles. Comme toutes les japonaises, Chrysanthème sert une quantité de choses à l'intérieur de ses longues manches, où des poches sont dissimulées. Elle y met des lettres, des notes quelconques écrites sur des feuilles fines en pâte de riz, des prières allumettes rédigées par des bonzes, et surtout une grande quantité de carrés en papier soyeux qu'elle emploie aux usages les plus imprévus. Essuyer une tasse à thé, tenir la tige mouillée d'une fleur, ou moucher son petit nez drôle quand l'occasion s'en présente. Après l'opération, elle froisse tout de suite le morceau qui a servi, le roule en boulette et le jette par la fenêtre avec horreur. Les personnes les plus huppées se mouchent de cette manière au Japon. Septembre. Le hasard nous a procuré une amitié singulière et rare, celle des chefs bonzes de ce temple de la tortue sauteuse où l'on célébrait le mois dernier un si étonnant pèlerinage. Les abords de ce lieu sont aussi solitaires à présent qu'ils étaient peuplés les soirs de cette fête, et en plein jour on est surpris de la vétusté morte de toutes ces choses religieuses qui la nuit avaient semblé vivre. Personne dans ces escaliers de granit usés par le temps. Personne sous ces grands portiques somptueux dont la poussière a terni les couleurs et les ors. Pour arriver, il faut franchir plusieurs cours désertes étagées sur le flanc de la montagne, plusieurs portes solennelles et des marches en s'élevant toujours au-dessus de la ville et des bruits humains dans une région sacrée remplie d'innombrables tombeaux. Sur toutes les dalles, sur toutes les murailles, du lichen et des pariétaires, la teinte grise des choses très vieilles, répandue partout comme une couche de cendre. Dans un premier temple latéral, trône un Bouddha géant, assis dans son lotus, idole dorée de 15 à 20 mètres de haut, montée sur un énorme socle de bronze. Enfin, le dernier portique se dresse avec les deux colosses traditionnels, gardiens du Saint-Parvis, qui se tiennent debout, l'un à droite, l'autre à gauche, enfermés comme des bêtes fauves, chacun dans une cage grillée de fer. Ils ont l'attitude furieuse, le poing levé pour frapper la figure ricanante et atroce. Leurs corps sont criblés de boulettes en papier mâché qu'on leur a lancées à travers les barreaux et qui se sont collées sur leurs membres monstrueux comme une lèpre blanche, une manière qu'on est fidèle de leur faire parvenir pour les apaiser des prières écrites sur feuillets délicats par des bons spieux. On passe entre ces épouvantails et on pénètre dans la dernière cour. L'habitation de nos amis est à main droite. La grande salle de la pagode est en face. Dans cette cour d'allée, des lampadaires de bronze, hauts comme des tourelles. Des cycas séculaires aux fraîches touffes de plumes vertes, dont les tiges multiples sont disposées avec une symétrie lourde, comme les branches de massifs candélabres. Le temple, entièrement ouvert sur toute sa façade, est profond, obscur, avec des lointains d'or atténués qui fuient en s'assombrissant. Dans la partie la plus reculée se tiennent les idoles assises, dont on aperçoit vaguement, du dehors, les poses recueillies et les mains jointes. En avant sont les autels, chargés de merveilleux vases de métal d'où s'élancent des gerbes sveltes de lotus d'argent ou d'or. On sent, dès l'entrée, l'odeur suave des baguettes de parfum que les prêtres brûlent constamment devant les dieux. Chez nos amis les bonzes, à main droite, en arrivant, il est toujours compliqué de se faire introduire. Un monstre de la famille des poissons, mais ayant des griffes et des cornes, est suspendu au-dessus de leur porte par des chaînes de fer. Au moindre souffle de brise, il se balance en grinçant. On passe dessous. On entre dans une première salle haute, immense, à peine éclairée, où brillent dans les coins des idoles dorées, des cloches, des choses religieuses incompréhensibles. Des espèces de petits clercs d'enfants de cœur s'avancent, peu accueillants, pour demander ce que l'on veut. « Matsu-san, Donata-san » répète-t-il très étonné, quand on leur a expliqué auprès de qui l'on veut être introduit. « Oh non, non, il n'y a pas moyen de les voir, ils reposent. » Ou bien « Ils sont en contemplation. » « Orimas, orimas » dirent-ils, en joignant les mains et en esquissant des génuflexions pour mieux se faire comprendre. Ils sont en prière, en profonde prière. On insiste, on parle plus fort. On se déchausse comme des gens bien résolus à entrer quand même. À la fin, ils arrivent, Matsu-san et Donata-san, de là-bas, des profondeurs tranquilles de la bonzerie. Ils sont vêtus de gaze noire et leur tête est rasée. Souriants, aimables, se confondant en excuses, ils vous tendent la main et on les suit, pieds nus comme eux, jusqu'au fond de leur mystérieuse résidence, à travers des séries d'appartements vides, tapissés de nattes d'une incomparable blancheur. Les salles qui se succèdent ne sont séparées les unes des autres que par des stores en bambou d'une finesse exquise, relevées au moyen de glands et de torsades en soie rouge. Toute la construction intérieure est du même bois, couleur beurre frais, menuisé avec une extrême précision, sans le moindre ornement, sans la moindre sculpture. Tout semble neuf et vierge, comme n'ayant jamais subi aucun contact de main humaine. De loin en loin, dans cette nudité voulue, un petit escabeau précieux, incrusté merveilleusement, supporte un vieux magot de bronze ou un vase de fleurs. Au mur, pendent quelques esquisses de maître jetées vaguement, à l'encre de Chine, sur des bandes de papier gris très correctement coupées, mais qu'aucune baguette n'encadre. Rien de plus. Pas de siège, pas de coussin, pas de meubles. C'est le comble de la simplicité cherchée, de l'élégance faite avec du néant, de la propreté immaculée et invraisemblable. Et tandis qu'on est là, cheminant à la suite de ces bonzes, dans ces enfilades de salles désertes, on se dit qu'il y a beaucoup trop de bibelots chez nous en France. On prend en grippe soudaine la profession, l'encombrement. L'endroit où s'arrête cette promenade silencieuse de gens déchaussés, l'endroit où l'on s'assied bien au frais dans la pénombre, est une véranda intérieure ouvrant sur un site artificiel. On dirait le fond d'un puits. C'est un jardinet grand comme un trou d'oubliette, surplombé de partout par l'écrasante montagne, ne ressemblant en aucune demi-clarté de rêve. Et cela joue quand même le grand ravin sauvage. On y voit des cavernes, des rochers abrupts, un torrent, une cascade et des îles. Les arbres rendus nains par ce procédé japonais que nous ne connaissons pas ont de toutes petites feuilles à leurs branches noueuses et caduques. Une teinte générale de vieillesse verdâtre harmonise cet ensemble qui est assurément centenaire. Des familles de poissons rouges circulent là dans l'eau fraîche, et des petites tortues, sauteuses probablement, dorment sur les lots de granit qui sont d'une nuance pareille à leur carapace grise. Il y a même des libellules bleues qui se risquent à descendre, on ne sait d'où, et se posent avec de légers tremblements d'ailes sur les nénuphars en miniature. Nos amis bonzes, malgré une certaine onction ecclésiastique, rient volontiers d'un rire très bon enfant. Dodus, joufflus, tondus, ils ne s'effarouchent de rien et aiment assez nos liqueurs françaises. Nous causons de choses et d'autres. Au bruit tranquille de leur petite cascade, je risque devant eux des phrases d'un japonais érudit. J'essaye des temps de verbes à effet, des désidératifs, des concessifs, des hypothétiques en bas. Tout en devisant, ils expédient les affaires de l'Église, des ordres d'office, cachetés de sceaux compliqués pour des pagodes inférieures situées alentour, ou bien des petites prières curatives tracées au pinceau pour être mangées en boulettes par des malades éloignés. De leurs mains blanches et potelées, ils jouent de l'éventail comme des femmes, et quand nous avons goûté à différents breuvages indigènes aux essences de fleurs, ils font apporter pour finir un flacon de bénédictine ou de chartreuse. Ils apprécient ces liqueurs composées par des collègues d'Occident. À bord, quand ils viennent nous rendre nos visites, ils ne dédaignent pas d'assujettir leurs grosses lunettes rondes sur leurs petits nez plats pour regarder les dessins profanes de nos journaux illustrés, la Vie parisienne par exemple. Avec une certaine complaisance même, ils laissent traîner leurs doigts sur les images quand elles représentent des dames. Ils ont dans leur grand temple des cérémonies religieuses très belles, et nous y sommes maintenant conviés. Au bruit du gong, ils font devant les idoles des entrées rituelles à 20 ou 30 officiants en costume de gala, avec des génuflexions, des battements de mains, des allées et venues savantes qui semblent les figures d'un quadrille mystique. Eh bien, le sanctuaire a beau être sombre, immense, les idoles superbes, dans ce Japon, les choses n'arrivent jamais qu'à un semblant de grandeur. Une mesquinerie irrémédiable, une envie de rire est au fond de tout. Et puis il y a l'auditoire qui nuit au recueillement et où nous retrouvons des connaissances, ma belle-mère, quelquefois, ou une cousine, ou la marchande de porcelaine qui hier nous a vendu un vase. Petite mousse-mée très mignonne, vieille dame très singesque, entrant avec leur boîte à fumer, leur parasol couvert de peinturlure, leurs petits cris, leurs révérences, caquetant, se complimentant, sautillant, ayant toutes les peines du monde à tenir leur sérieux.